Messieurs, dames, nous sommes prêts à commencer. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Nous avons des orateurs très intéressants de Russes et de Macédoine. Je suis honoré d'avoir donc deux invités avec nous qui sont distingués, deux invités distingués. Et j'aimerais d'abord parler de choses un peu terre à terre. Nous avons des langues en plus que vous pouvez voir sur le tableau à côté de moi. Nous avons donc des langues en plus sur les chaînes 5, 6, 8 et 9. Donc des interprètes en plus de ceux que nous avions jusqu'ici. Un de nos orateurs s'adressera à nous dans sa langue de Macédoine et l'autre orateur s'adressera à nous en anglais. J'ai donc je laisse la parole à nos orateurs. J'ai l'honneur de les présenter à vous. Notre premier orateur, Yako Krotov, qui vient de Moscou, en Russie, nous donnera son point de vue en tant que journaliste russe et historien. Il a aussi une émission de télévision. C'est également un prêtre de l'Église orthodoxe ukrainienne. Vous pouvez voir sa biographie dans le programme que vous avez reçu. Notre deuxième orateur sera Zorica Angelovska Kovacevic. Elle vient donc de Macédoine. Et vous pouvez aussi voir sa biographie dans le programme. Elle est à la tête du secteur des relations des groupes et communautés religieuses en Macédoine. Elle a également passé beaucoup de temps à travailler pour les universités. J'ai visité moi-même la Macédoine en avril et je dois dire que je l'ai rencontré là-bas et je peux dire qu'ils ont fait beaucoup de travail dans leur pays pour les libertés religieuses. Notre discussion va être simple, donc chacun de nos orateurs va nous adresser leurs remarques. Prenez des notes, ce qui vous intéresse, notez ce qui vous intéresse et nous aurons ensuite un moment pour des questions-réponses. Merci. Je suis très reconnaissant pour les Américains parce que vous êtes ma source de salaire. Je suis également reconnaissant aux Américains parce qu'il y a 19 ans, quand je suis venu aux États-Unis pour la première fois de ma vie, j'ai pris la décision d'être ordonné hors dehors de l'Église orthodoxe russe, qui était l'Église établie, l'Église reconnue en Russie. Et j'ai reconnu donc ici que dans ce pays, les choix religieux sont de première importance. Quand j'ai parlé à mon évêque en Ukraine que j'allais voir les Mormons, il m'a dit « Ok, d'accord, mais ne priez pas avec eux. » Et je peux aller lui dire que vous avez prié avec moi. Donc ça va. La Russie est maintenant à une liberté religieuse en quelque sorte, mais les Russes ont maintenant eu à faire un vote du fait des rites de passage qui sont donc d'actualité aujourd'hui. Deux personnes sont en prison et pour 2 ans. Et je vais parler de ce cas plus spécifiquement parce que c'est un exemple typique en Russie. La Russie ne peut pas être caractérisée comme un État sans loi. Nous avons des tribunaux, nous avons des juges, en règle générale, mais il y avait une dispersion étrange de la loi. Tout d'abord, vous devez être membre des juges élites russes, la nomenclature sociologique. Elle correspond à 25-30% de la population. Tous ceux qui sont dans cette élite, ce groupe d'élite, a le droit de violer la loi. Mais les droits sont dispersés, sont distribués de manière irrégulière. Par exemple, vous pouvez violer 3 à 5% des lois. Si vous... Donc, selon votre position hiérarchique, vous pouvez violer un plus grand nombre, plus ou moins grand nombre de lois. Par exemple, si vous faites partie d'un clan tel que dans les affaires militaires, vous avez même de plus grandes possibilités. Et il y a une personne en Russie qui peut violer 100% des lois, c'est le président russe. Et le cas des rites de passage est intéressant parce qu'ils ont été condamnés de manière tout à fait illégale, tout comme le cas de Murkowski il y a 10 ans. Les rites de passage ont été connectés avec les affaires religieuses directement. Donc, en Russie, on peut y penser comme un entonnoir dans lequel tous les membres de ceux qui violent la loi n'ont pas tous les mêmes droits de viol de vis-à-vis de, donc quand il s'agit de violer la loi. Maintenant, parlons de la philosophie des droits humains et droits religieux. Je suis d'accord qu'il y a un écart entre la philosophie des droits de l'homme et la philosophie de religion. Pourquoi la religion est à la base des droits de l'homme? Je dirais que le mot-clé est le mot. Quand je dis que je crois en Dieu, au Dieu Tout-Puissant, tout d'abord, le mot crucial est la prononciation des mots eux-mêmes. Je crois que je peux dire que je crois. Je crois que Dieu peut être exprimé à travers les mots, pas seulement la méditation. Je crois que un être humain, diffère des singes et des oiseaux et que notre langage n'est pas juste un son, un grognement, mais c'est quelque chose qui constitue notre substance divine. Au début, il y avait la parole, et selon ma foi, la parole, comment le dire, je ne peux pas le prouver, mais c'est l'objet de ma croyance. Par exemple, l'accusation principale contre les rites de passage, c'est que qu'est-ce qui fait que l'Église est l'Église? Parce qu'ils disent que les rites de passage sont possibles, mais seulement dans l'Église. Donc il faut donc définir l'Église. Est-ce que c'est seulement un espace, un lieu? Quand Abraham prie dans le désert devient qui est passé d'un état impur à un lieu sacré. Quand les Mormons sont venus en Utah et ont fondé cette ville, il y avait un désert et maintenant c'est un espace. C'est l'endroit de culte, l'endroit pour les croyants. Donc, c'est le cas pour l'Église du Christ, le Sauveur, qu'on appelle maintenant, il faut le souligner, on dit maintenant, regarde, c'est l'Église Les bolcheviks l'avaient décrite, l'avaient proscrite, l'avaient interdite 70 ans. Et il y a 7 ans, le président a été a reçu ce, donc si à cet endroit même le tabou a été brisé, vous êtes donc obligé à cet endroit même d'exprimer votre indignation. Parce que vous êtes humain, vous n'êtes pas des animaux. Et je crois que le choix de l'endroit était très important. Parce que le problème des états d'affaires de Russes s'est trouvé partout dans les médias. Que tout n'est pas beau dans le royaume russe. Un autre exemple de ce que je veux dire. En s'agissant de la parole qui structure toute compréhension. Par exemple, durant les 3 années passées, il y a eu une tendance d'action qui allait à l'encontre des droits de l'homme en Russie. C'est encore une question d'endroit. La Russie se positionne comme un endroit spécial en dehors de tout le reste de l'humanité. C'est pour ça que donc on ne peut pas le Russe ne peut pas s'adonner à la force du mal qui se trouve à l'extérieur, un peu comme Dark Vader dans Star Wars. Donc nous ne pouvons pas nous laisser envahir par l'espace américain, par exemple. Par exemple, et c'est le cas avec le sexe, le genre sexuel. Donc, les mots font ce qui change le sexe en amour. Sans les mots, on devient comme des singes. Les mots créent les hommes ou les femmes. Et les mots sont à la base du mariage. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'il est très important dans les cas de... Dans le cas de Pussy Riot, ils ont combiné les mots et ils ont fait une danse et ils ont mis une vidéo sur YouTube. Et ils ont été punis par YouTube pour cette vidéo, donc, sur YouTube. Donc, ce qui est important, c'est que les mots-clés étaient de dire que l'Église orthodoxe russe avait travaillé avec le KGB. Et la question était de savoir si la Russie était toujours un état de police. Mais est-ce que c'est donc le cas? Est-ce que l'État contrôle les mots à travers la police pour réduire la liberté d'expression, qui bien sûr découle des droits religieux? Ce n'est pas le droit de grogner, mais le droit de s'exprimer à travers des mots. Une chose intéressante, selon moi, est le droit à la santé, qui est en fait connecté au droit de religion. Parce que vous voyez, le droit de religieux comprend le droit d'utiliser ce qui est le plus important pour la santé. Par exemple, la clitoridectomie ou la transfusion sanguine. Sont des questions pour certaines religions en ce qui concerne les droits de santé. Et le droit d'être également, je suis. Et le droit d'être, donc, inclut aussi le droit de ne pas être.
Jérusalem.
Donc, au cours des dernières années en Russie, je pense que 10 personnes ont été emprisonnées parce qu'ils sur des motifs religieux, ce qui me paraît impensable. Je pense que en ce qui concerne la santé, le sexe, l'espace, l'information, la parole, le discours, la chose commune est qu'elles ne sont pas contrôlées par l'État. Elles ne sont pas présentes dans la nature, en fait. Et on ne peut pas les appeler des droits naturels. Ils sont articulés par les mots. Et c'est ce qui rend l'humanité humaine. Et je crois que l'origine est religieuse. Sans l'Esprit, sans le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, il n'y aurait pas de sexe, d'endroit ou autre. Donc c'est là la fondation de notre liberté religieuse et de ce qu'on appelle aussi la dignité humaine. Et ça, bien sûr, pose la question pratique de savoir quoi faire avec la Russie, parce que la Russie n'est non seulement le pays avec la bombe atomique, mais également avec le pouvoir des dirigeants qui sont psychologiquement prêts à l'utiliser, ce qui est incroyable. Mais c'est la psychologie de l'État politique perverti. Et j'espère que la tragédie n'arrivera pas. Mais on ne peut pas boycotter la Russie. On ne peut pas la domestiquer, l'inclure dans le monde de l'Ouest. Et même maintenant, dans les sessions précédentes, on a vu le niveau de sécularisation en Europe et on voyait tout en bas les pays d'Afrique, la Turquie, les pays du Moyen-Orient, les Royaumes-Unis, l'Italie et rien en Russie. C'est ce que je veux souligner parce que avec un pays de plus de 140 millions d'habitants, il y a quelques années encore était athée et maintenant on pense que quand on voit que 99% seraient des Russes orthodoxes, non, c'est un mensonge. En fait, il faut définir ce mot de foi. Sans religion, qu'est-ce que c'est que serait la foi? Je pense que, en tant qu'historien et journaliste, je crois que la plus grosse difficulté encore est le mot, non pas l'illumination. Mais de dire la vérité. Selon les standards russes, je suis un dissident et je dirais que ce qui manque le plus n'est pas la liberté, mais le mot de la vérité, ceux qui croient au monde libre. J'espère que ça changera. Merci beaucoup.
Some of the participants of this conference wanted to listen how Macedonian language sounds, and that's the reason why I would continue in my language. Zdravo na site.
Je vais exprimer mon plaisir d'être avec vous d'abord. Et je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité, particulièrement M. Cole. Je viens de la République de Macédoine, un petit pays dans le sud-est de l'Europe, dans la péninsule des Balkans, qui est multiculturel, multiethnique, multidénominationnel. Sa population est composée de Macédoniens, qui sont la majorité, ensuite des Albaniens, des Turcs, des Roms et des Serbes, des Vlachs et des Bosniaques. Il y a 30 églises, communautés religieuses et groupes religieux pour l'instant. Selon le recensement de 2002, la représentation en pourcentage des affiliations religieuses est comme suit. Les orthodoxes, 64%. Les musulmans, 33,3%. Les catholiques, 0,35%. Les protestants, 0,035%. Et les autres, 1,52%. La religion est une partie de la vie quotidienne du peuple macédonien. Elle a joué un rôle important depuis, tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle une attention spéciale est portée à la religion. J'aimerais parler de la liberté de religion et des relations entre l'État et les communautés religieuses. En 2007, nous avons passé une loi sur l'état légal de l'Église, de la communauté religieuse et des groupes religieux qui gouvernent la liberté de religion entre l'État et les communautés religieuses. Avant l'adoption de cette loi, un nombre de réunions et de tables rondes ont été tenues avec les représentants des communautés religieuses immatriculées pour préparer une bonne loi. Ensuite, la loi rédigée a été envoyée à la Commission de Venise et l'OSCE pour leurs opinions d'experts. Ensuite, elle a été passée en 2007 et mise en œuvre à partir de mai 2008. Pendant cette période, toutes les églises, les communautés religieuses et les groupes religieux immatriculés par l'État et l'autorité qui était responsable des affaires religieuses à la fin de 1998 ont pu garder leur statut légal. Et les données ont été transmises et enregistrées dans les registres. Cette loi a été considérée comme une des lois les plus libérales dans cette région. Et c'est le cas, puisque elle offre le même statut légal à toutes les églises, communautés religieuses et groupes religieux. Et les possibilités égales concernant leur immatriculation, les services religieux, la prière et les rites religieux, l'instruction religieuse, les activités éducatives ou d'autres questions. Les deux différences de base entre la loi antérieure et la loi actuelle, c'est que l'immatriculation des communautés religieuses est transférée de l'État, de la Commission d'État à la Cour principale de Skopje. La compétence est transmise pour ces immatriculations. Et deuxièmement, la loi actuelle n'inclut pas les prospects. Donc, il y a une séparation devant la loi, mais ils sont séparés. religion, united by their faith and identity, expressed with equal religious service, prayers, rites. Donc elles peuvent exprimer de la même façon leur expression de foi. Tout le monde a le droit de liberté de pensée, de croyance et de conscience. Individuellement ou en collectivement, en public ou en privé. Les personnes dans les hôpitaux, les orphelinats ou les maisons de retraite, les militaires, les institutions de police, les prisons, d'autres institutions du même genre peuvent exprimer leur foi. Et si elles le veulent personnellement, être visitées par des prêtres pour des rites religieux et d'autres manifestations religieuses ou de croyances d'après leurs besoins. Tous ces groupes ont le droit d'établir des institutions d'éducation religieuse, excepté pour l'éducation primaire, l'éducation de prêtres et de représentants religieux, aussi bien que des dortoirs pour des personnes qui sont éduquées dans ces institutions. Ces institutions sont égales à d'autres éducations d'éducation et elles ont le même droit et les mêmes obligations. La liberté de religion est aussi garantie par la Constitution de Macédoine. Selon l'article 9 de la Constitution, les citoyens de la République de Macédoine sont égaux dans leur liberté et leurs droits, nonobstant leur genre, leur race, leur couleur, la couleur de leur peau, leur origine sociale ou nationale, leurs croyances politiques et religieuses, leur propriété et leur statut social. Cet article ne réfère pas seulement à l'égalité des libertés et des droits parmi ceux qui expriment leur affiliation à un sexe particulier, une race, une nation ou d'autres convictions, mais aussi à l'égalité dans les libertés et les droits parmi ceux qui n'expriment pas ces convictions. La Constitution garantit la liberté de plus. La Constitution garantit la protection de l'identité ethnique, culturelle, le langage et l'identité religieuse pour empêcher la violation du droit à l'expression libre de la religion. La Constitution prescrit que les libertés et droits peuvent être limités uniquement pendant un état d'urgence ou de guerre. La liberté de religion est garantie dans l'article 19 de la Constitution. Cet article dit que le droit d'exprimer sa foi librement et en public, individuellement avec d'autres, est garanti. En 2001, un amendement à la Constitution a été apporté selon lequel l'Église orthodoxe de Macédoine, ainsi que la communauté islamique, l'Église catholique, l'Église méthodiste et la communauté juive et d'autres communautés religieuses et groupes sont séparés de l'État et égales devant la loi. Ainsi, les églises, les communautés religieuses et les groupes religieux sont une catégorie constitutionnelle et il s'ensuit qu'il n'y a pas de religion d'État en Macédoine. Les communautés religieuses les plus importantes sont l'Église orthodoxe macédonienne et les communautés religieuses islamiques. Et comme le dit la Constitution, l'Église catholique, l'Église méthodiste et la communauté juive. Ces quatre communautés religieuses sont soulignées séparément, étant donné leur tradition et leur longue existence en Macédoine. Les dirigeants de ces cinq communautés religieuses sont des membres du Conseil interreligieux qui a été établi dans l'objectif des considérations des questions reliées au dialogue religieux et à la vie religieuse en Macédoine. Il fonctionne et opère, et il a opéré pendant plusieurs années. En plus de la loi sur l'état légal des églises, des communautés, des groupes religieux, l'État a adopté deux autres lois importantes. D'abord, la loi sur la restitution, selon laquelle les propriétés confisquées dans le passé pour la plus grande partie, ont été retournées aux communautés religieuses, tout particulièrement l'Église orthodoxe et la communauté islamique. La propriété a aussi redonné à la communauté juive en termes d'argent qui a été utilisé pour construire le centre de mémoire de l'Holocauste pour les Juifs de Macédoine. À cette occasion, une déclaration internationale en honneur des victimes de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale a été signée. L'État a adopté la loi sur la notification pour les vacances religieuses importantes, par exemple Nouvel An, Noël, Pâques pour les chrétiens, Bariam pour les musulmans, Yom Kippour pour les juifs. Cela veut dire que les croyants des religions respectives peuvent avoir un jour de congé pour célébrer leur jour de fête respectif. L'État participe aussi dans l'organisation d'événements nationaux et internationaux, tels que les trois conférences mondiales pour le dialogue interreligieux et intercivilisation. L'État a soutenu l'organisation d'une cinquième réunion des dirigeants des communautés religieuses islamiques des Balkans et la récente conférence internationale « Les Juifs dans le Balkan, histoire, société et culture ». L'État a aussi fourni pour la population plus jeune quelque chose qui a été exigé depuis très longtemps, la connaissance des religions au travers de l'éthique des religions dans les écoles élémentaires. Tous ces éléments sont importants pour les identités religieuses, pour rapprocher les identités religieuses dans l'État. Comme je vous l'ai dit, la Macédoine est multiculturelle, multiethnique et multidénominationnelle. Et cela veut dire aussi que l'existence de relations, de pratiques, de tolérance interreligieuse, de patience et de compréhension sont une nécessité. Et bien sûr, une promotion permanente et une amélioration de ces relations et de ces pratiques est aussi nécessaire. Merci beaucoup pour votre attention.
Comme promis, nous avons maintenant une période de questions-réponses. J'aimerais vous rappeler d'indiquer si vous avez une question et je vous ferai passer un micro. Attendez que le micro arrive jusqu'à vous afin que les interprètes entendent votre question. Qui voudrait commencer? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des problèmes en Macédoine avec les mariages interreligieux, les mariages entre orthodoxes, musulmans, etc.? Et quelles sont les solutions si vous avez ce genre de problème?
No, we don't have any problem with that kind of marriages in Macedonia.
Non, nous n'avons pas de problème avec ceci en Macédoine. Sorry.
Est-ce qu'il y a des mariages interreligieux ou vous n'avez pas de problème avec?
Il y a des mariages mixtes, mais ce n'est pas un problème.
Thank you. Other questions? Other questions?
D'autres questions?
Well, I have one.
J'en ai une, moi.
Pour
Yaakov. Vous avez utilisé des images merveilleuses dans votre discours, mais des images concernant le mot, les mots. Vous avez une émission hebdomadaire de radio que je crois vous avez appelée le point de vue chrétien. Quel genre de mots essayez-vous d'utiliser? Quel est votre message dans votre émission de radio? Quelle est la réponse que vous avez ressentie? S'il y en a une réponse du gouvernement, réponse du peuple?
Pas de réponse du gouvernement, j'espère, avec peut-être une interdiction des libertés publiques en juin dernier. J'ai parlé de paroles, mais par exemple, dans le cas, j'essaie de faire des émissions avec des athéistes au moins 4 fois par an, parce que de temps en temps, je reçois des lettres qui me demandent pourquoi est-ce que vous avez du point de vue chrétien et pas du point de vue athéiste, et c'est une discrimination. Donc j'invite des athéistes. Le problème avec les athéistes est le même qu'avec des baptistes ou des chrétiens, des catholiques en général. Ils doutent. Bon, de croire, c'est intéressant. La foi fait partie de la vie. Et j'ai trouvé un athée qui avait une combinaison remarquable, qui était émotionnellement très proche de moi. Quand je parle d'émotionnellement, mon critère principal est la capacité d'improviser. C'est ce que les gens préfèrent. Ils s'intéressent, ils ne deviendront pas des croyants ou des athées, mais ils verront que vous êtes sincères, et c'est le point de vue que je recherche. Mais la moitié des émissions sont dédiées à des affaires comme Pussy Riot. Et vous pouvez montrer aux gens ce qu'ils aiment dans la vie, pour ceux qui sont pour le pape, ceux qui ne le sont pas. Il y a des différences, mais les autres émissions que je fais, j'en parle parce que ce n'est pas un problème d'émission. Il faut combiner la source de financement et l'émission. Dans ma première émission, c'était concernant les pots de vin. C'était un grand succès. J'ai interviewé des Mormons, Monsieur Jarvis, au début des années 1990. Je me souviens plus de son nom. Avec les catholiques, les orthodoxes, les protestants, pentecôtistes, et en fin de compte, les gens m'ont dit la différence entre les dénominations. Bien sûr, nous donnons des pots de vin, ça fait partie de la vie. Nous sommes pauvres. Les catholiques ont dit que la Bible n'approuve pas les pots de vin, mais si mon évêque me donne la dispensation, l'autorisation, j'ai l'autorisation d'accepter les pots de vin. Nous ne donnons pas de pots de vin. Mais c'est leur affaire personnelle. L'Église ne donne pas de pots de vin, mais c'est l'affaire personnelle des membres. Juste un moment.
Une question à Zorica. Vous avez dit que, donc, au sujet de. En fait, qu'en Macédoine, l'Église orthodoxe est l'Église principale. Est-ce qu'ils ont un rapport amical avec les orthodoxes grecs? Quelle est la communication, la frontière entre. Parce qu'il y a une frontière. Vous partagez une frontière avec la Grèce. Donc, c'est une question profonde, je pense. Comment vous faites entre les groupes religieux, entre orthodoxes et orthodoxes? Parce que je pense que. Il y a d'autres formes d'églises orthodoxes en Macédoine, sans doute. C'est une bonne question.
Ok.
D'accord. L'église orthodoxe de Macédoine a été partie de l'église de Serbie vers 1958. Ils ont décidé de devenir indépendants. Et se sont séparés de l'église orthodoxe serbe. Elle ne l'a pas acceptée très bien, mais l'église orthodoxe de Macédoine n'est pas bien reconnue par le reste du monde orthodoxe. Et les Grecs, c'est la même chose avec l'Église orthodoxe grecque qui ne reconnaît pas l'Église orthodoxe de Macédoine, l'Église officielle de Macédoine.
On a encore quelques minutes pour une autre question, peut-être. Diokloff, vous avez parlé de. L'Église en Russie qui aurait collaboré avec le KGB. Est-ce que vous pourriez commenter donc sur les points particuliers de cette relation?
D'abord, je pense que une remarque de type moral. Il y a 20 ans, 99% pensaient que c'était un péché de collaborer avec le KGB. Mais en 92, tout cela travaillait pour le KGB, mais pensait que c'était un péché. Donc le problème maintenant, dans mon pays, il est normal de dire que les dirigeants religieux doivent collaborer avec le KGB. Et la prochaine expression, comme c'est fait dans les États-Unis, aux États-Unis, c'est le mythe russe au sujet des États-Unis. Le Parlement démocratique a pu recevoir des documents de la collaboration de l'Église avec le KGB. Et il y avait un seul homme dans ce comité qui est chrétien, qui n'a pas nommé les musulmans, juifs et baptistes qui ont collaboré avec le KGB. Il n'a parlé que des orthodoxes. Ces religions travaillent aussi avec le KGB. L'Église orthodoxe avec la présidence du Kremlin travaille un monde russe. Et par exemple, qui fait aussi partie de l'histoire américaine, il y avait eu des pots de vin des dirigeants de l'Église orthodoxe organisés par les immigrants russes qui donnaient des pots de vin aux dirigeants. Donc cette église est devenue fait partie d'une paroisse qui sont le point d'influence pendant les dernières années. L'église russe, avec l'aide du Kremlin, a conquis, je ne peux pas utiliser un autre mot, l'église orthodoxe à Rome, à Nice, et maintenant, et va aussi conquérir l'église russe orthodoxe à Paris. Ce n'est pas que quelques cas particuliers, c'est une politique et un gaspillage d'argent pour essayer de créer un monde parallèle. Et le KGB est connecté à cette question, pas très actif en Russie. Ils n'ont pas besoin de le faire. Ils agissent en dehors de la Russie. Il n'y a pas d'opposition en Russie en ce moment. L'objet de cette attention les témoins de Jéhovah. Et pas les Mormons, se demandent pourquoi. Et à cause de leur refus de servir, de faire le service militaire. Et c'est un crime en Russie.
Merci. Dernière question. Question qui s'adresse à nos deux orateurs. Quel défi des communautés minoritaires de beaucoup de pays. Donc, un de leurs défis est d'être accepté comme citoyen de ce pays. Il pourrait y avoir une mentalité qui serait que, en tant que réel membre d'un pays qui appartient à une minorité, la croyance est que vous n'êtes pas vraiment, vraiment citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire et qui peut le faire pour aider les membres des communautés minoritaires à être non seulement acceptés par leur société, mais se reconnaître comme citoyens à part entière. Qu'est-ce que les communautés religieuses, civiques, etc. peuvent faire? Qui aimerait répondre d'abord? Vous voyez, encore, il s'agit des mots. Pour être citoyen, il faut avoir une société civique. En Russie, il n'y a pas de société civique. Il n'y a pas de citoyens, juste des habitants. Par exemple, les Mormons ainsi que les Baptistes sont des bons citoyens de Russie. Et ça veut dire qu'ils sont étrangers à la civilisation russe. Pour être propres, ils sont trop propres, trop honnêtes, trop honnêtes, et en plus, ils ne boivent pas. Donc, je pense que la tactique devrait, pour inclure donc les minorités, il faut promouvoir une société civique. Et si cette société devient réellement une société civique, elle inclura alors toutes les minorités, même celles que nous ne trouvons pas sympathiques.
Je pense que en Macédoine, personne ne se pense une minorité parce qu'il a... Je voudrais répondre de cette façon à propos des mariages mixtes dans ce domaine. Les minorités sont toujours ensemble en Macédoine. Et les groupes minoritaires, les groupes religieux, nous avons beaucoup de groupes religieux immatriculés et qui existent avant 1998. Donc, je pense qu'ils ne sont pas traités comme des minorités.
Thank you. One protocol item quickly. It is lunchtime. It will be held in the Hinckley.
Il est l'heure du déjeuner. Nous l'aurons au même endroit que hier, sauf que aujourd'hui ce sera au deuxième étage. Donc, j'aimerais remercier nos orateurs une fois de plus, si vous voulez bien me joindre. Je voulais remercier.